Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du Grain. Ce soir, appropriation culturelle. S'agit-il d'un débat importé ? C'était un rapport attendu, celui consacré à la restitution temporaire ou définitive au pays d'origine des œuvres d'art africains conservées dans les musées français. L'historienne Bénédicte Savoie et l'économiste Felwine Sarr l'ont remis ce vendredi au chef de l'État. Les deux auteurs en ont longuement parlé ce matin sur notre antenne. Au moins 90 000 objets d'art africain sont concernés par ce processus de restitution qui reste à définir et à planifier. Alors c'est pour faire écho à la remise de ce rapport que France Culture a décidé de proposer une journée spéciale intitulée « À qui appartient la culture ?». Et c'est dans ce cadre que nous nous intéressons ce soir à la question voisine de l'appropriation culturelle. Alors de quoi s'agit-il ? En résumé, mais nous aurons l'occasion évidemment d'y revenir, il y a appropriation culturelle lorsque des éléments d'une culture dite « dominée » sont captés par des représentants d'une culture dite « dominante » et ce, sans contrepartie pour les premiers. De nombreux débats ont lieu autour de cette question en Amérique du Nord. On commence seulement à en entendre parler en France. Alors, appropriation culturelle, s'agit-il d'un débat importé ? Eh bien, c'est la question dont nous allons discuter ce soir en compagnie de deux des membres de notre club. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, vous enseignez la théologie politique à Sciences Po. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
La suite dans les idées, c'est tous les samedis à 12h45 sur France Culture. Vous êtes également le patron du site AOC. Et puis notre troisième invité, il n'est pas au Bel Air ce soir car il est coincé dans un taxi. Enfin coincé, j'espère quand même que le taxi avance. Il s'agit de Louis Georgetin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va tenter de faire un duplex avec vous depuis la voiture qui avance. On verra si le réseau mobile parisien est performant. Si jamais ça ne fonctionne pas très bien, on sera peut-être obligé de couper ou de vous rappeler. Je vous le dis, et pour vous, et pour votre chauffeur, et pour tous nos auditeurs. Louis Georgetin, vous êtes le président d'honneur du CRAN. Le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires de France. Alors je vous le disais, cette discussion ce soir sur l'appropriation culturelle, elle a pour cadre une journée spéciale sur France Culture avec ce titre « À qui appartient la culture ?». Si vous deviez déjà répondre à cette question, comment est-ce que vous le feriez les uns et les autres ? Tiens, Sylvain Bourmeau, je vois que vous levez la main. C'est pas vrai, mais enfin bon.
À qui appartient la culture ? Vaste question. La culture, vous savez, il y a la notion, par exemple, de propriété culturelle dans le droit. Donc, c'est vrai qu'on peut estimer que il y a des objets, des artefacts, même des œuvres immatérielles dont on peut être propriétaire. Après, du mot culture, on peut avoir une définition autre, plus large, plus anthropologique, et auquel cas, ça n'a pas de sens de penser que la culture puisse, entendu au sens anthropologique du terme, faire l'objet d'un droit de propriété et de propriété intellectuelle, des propriétés culturelles, puisque c'est un fait social partagé par des acteurs sociaux. Donc, la question est vaste. La culture, elle se manifeste, elle se traduit par des œuvres, que ce soit des artefacts, comme on dit aujourd'hui, des objets, des œuvres matérielles, mais aussi des œuvres de l'esprit. Et on sait que ces œuvres sont soumises à des régimes juridiques divers. Mais c'est pas vraiment... Enfin, ça peut être de ça dont il s'agit. Ça peut être aussi de la culture. Et je pense qu'une grosse partie de l'ambiguïté, des malentendus qu'il y a derrière ces débats réside dans cette finalement confusion autour de l'utilisation du terme culture.
Oui, peut-être d'ailleurs qu'il faudrait poser plutôt la question à qui appartiennent les cultures, pour être plus proche du sujet de ce soir, qu'à qui appartient à la culture. Anastasia Colosimo, vous qui faites le journal de la philosophie en ce moment, tous les jours dans les chemins de la philo, voilà une question qui est pour vous.
Oui, c'est une question qui est très intéressante, surtout si on la remet dans une perspective historique, puisque même la propriété intellectuelle, en fait, est un phénomène extrêmement tardif dans l'histoire de l'humanité. Et on ne signe pas les œuvres, on considère que les œuvres appartiennent à tout le monde, qu'elles sont aussi quelque part faites par tout le monde. Donc on a là vraiment un fait social. Donc la culture, elle n'appartient à personne, ou plutôt, elle appartient à tout le monde. Et alors, il y a l'autre question, mais vous voyez, elle est déjà biaisée de dire à qui appartiennent les cultures. Elle est déjà biaisée. Moi, je serais d'avis de dire la même chose. Les cultures appartiennent à tout le monde, puisqu'elles sont exactement ce qui transcende parfaitement l'humanité.
Alors, je vais vous poser les deux questions en même temps, du coup, à vous, Louis-Georges Eutin. Est-ce que vous répondriez, en tout cas, de la même manière à ces deux questions? À qui appartient la culture et à qui appartiennent les cultures?
La culture appartient aux personnes qui la créent, évidemment. Maintenant, il y a aussi une problématique plus importante et on ne peut pas dire les personnes qui sont un peu plus importantes que cela, soit elles sont beaucoup plus importantes que cela. Donc c'est ces personnes qui créent la culture et qui sont dans cette production sont évidemment propriétaires.
Pardonnez-moi. Alors voilà, on va avoir sans doute des petits décalages entre la fin de vos interventions et le moment où je vais revenir. Est-ce que si on reste donc sur cette question de, disons, de l'appartenance des cultures et du coup de cette notion d'appropriation, Louis-Georges Eutin, est-ce que si on a une approche universaliste, on peut considérer que n'importe qui a le droit d'aller puiser des éléments dans n'importe quelle culture sans forcément avoir à en demander la permission? Ouais, alors là on vous entend pas. Je me tourne du côté de la régie, il faudra me dire si on continue ou pas. Alors, je vais poser la question à Sylvain Bourmeau. Ben ouais, mais je vous entends pas répondre du coup. Alors, je sais pas si alors je vous laisse réfléchir du coup à la question, Louis-Georges Eutin, si vous l'avez entendu. Je vais déjà interroger et Sylvain Bourmeau et Anastasia Colosimo. Sylvain Bourmeau, sur cette question de finalement, est-ce que les biens culturels seraient comment dire en libre service dans les et on pourrait y puiser sans se soucier de qui les a produites et à quelle, disons, tradition historique elles appartiennent?
Non, encore une fois, tout ça est soumis souvent à des régimes juridiques. Et je rejoins Louis-Georges Eutin quand il dit la culture appartient peut-être d'abord à ceux qui la créent. Moi, je dirais plutôt à ceux qui la produisent. Or, produire de la culture, c'est une activité extraordinairement large. On produit de la culture quand on crée une œuvre d'art, par exemple. Mais je pense qu'on produit de la culture quand on est le spectateur de cette même œuvre d'art aussi. La culture, c'est le résultat d'interactions sociales. Et je ne crois pas qu'on puisse, si on veut avoir cette perspective anthropologique, réduire la culture au geste créateur esthétique. Si vous voulez, ce serait une définition étroite de la chose. Donc, à partir de là, c'est très difficile d'encadrer la réception et d'encadrer les interactions sociales qui peuvent avoir lieu autour de toutes les manifestations de culture. Et les manifestations de culture, elles peuvent être extraordinairement variées. Là, je parlais d'art, mais en fait, on peut en avoir une définition beaucoup plus large. Ça peut être aussi les modes de vie, ça peut être les langues, ça peut être des tas de choses différentes. Donc, toute l'histoire de la culture est l'histoire d'échanges, de rencontres, d'interactions. Et dès lors, ça n'a pas grand sens de vouloir cantonner, je dirais, la culture à un seul des termes de l'échange. Je pense que si on fait ça, on ruine la définition même du mot culture, en fait.
Anastasia Colosimo.
Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Alors, il faut, à mon avis, distinguer plusieurs phénomènes. L'appropriation culturelle, c'est quand même le système par lequel les empires antiques, par exemple, se sont étendus. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, sur l'Empire romain, et c'est un phénomène intéressant, que l'Empire romain a procédé par assimilation, par en fait assimilation de culture. C'est-à-dire que dès que l'Empire romain pouvait conquérir une nouvelle terre, on mélangeait les dieux du panthéon romain aux dieux présents. Et en fait, c'était de l'appropriation par assimilation, donc une sorte de mélange en plus. Et donc, on peut dire que l'appropriation culturelle de ce point de vue-là, c'est un phénomène politique, vieux comme le monde, et que dans toute l'histoire de nos empires, dans toutes les histoires de nos empires, il y a cette histoire d'appropriation culturelle, ce que l'Empire ottoman doit par exemple à l'Empire byzantin, ce que l'Empire byzantin doit à l'Empire romain, avec parfois des choses extrêmement concrètes. On sait par exemple que les mosaïques de Saint-Marc à Venise ont été volées à Byzance, et en même temps aussi parce que Venise, c'est cette ville également byzantine par tous les voyages qui étaient faits à cette époque-là et les transferts aussi qu'il y avait de culture justement entre les différents artistes. Bon, donc il y a un phénomène qui est politique et qui est lié au fait que les empires et les États bougent et donc s'empruntent, se mélangent. Et donc ce mélange-là, c'est un mélange qui généralement peut être voulu, parce qu'on peut considérer que c'est une meilleure manière d'assimiler, ou bien il peut être interdit. Donc là, on va essayer, par exemple, de tuer absolument la culture qui est sur place. Mais en fait, l'appropriation culturelle, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que quand on veut s'approprier culturellement la personne qu'on conquiert, ça veut dire qu'on l'accepte aussi pour l'intérêt qu'elle a. Alors que si elle n'avait aucun intérêt, on l'écraserait tout simplement et on imposerait absolument sa culture. Alors ensuite, il y a un autre phénomène qui est un phénomène social, ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la mode américaine, des post-colonial studies, qui, à mon avis, est assez différent et qui s'intègre dans un réseau de signifiants vraiment différents.
Alors justement, j'allais y venir, parce que est-ce que c'est de ce mélange dont nous parle Anastasia Colosimo, dont parle aujourd'hui le débat sur l'appropriation culturelle, Sylvain Bourmeau, ou bien est-ce que ça dit des choses un petit peu différentes ?
En fait, c'est un débat complexe, parce que il y a des thématiques, en quelque sorte, ou des manières de concevoir le mot d'appropriation qui sont gigognes, qui sont légèrement différentes. On peut entendre par appropriation le fait de piller, de voler. Anastasia Colosimo parlait d'empire, s'étaler avec des violences, on va gagner des guerres, on remporte avec soi des trophées, Napoléon ramène d'Égypte, etc. Bon, ça, c'est une forme classique d'appropriation au sens de pillage, de vol. Les musées français sont pleins d'œuvres qui ont été dérobées. Il y a eu
la
spoliation des biens juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, les exemples depuis le début de l'histoire de l'humanité.
Mais il y a aussi de l'appropriation culturelle comme on l'entend aujourd'hui. Mais, par exemple, l'orientalisme français, les lettres persanes.
Oui, mais alors, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? J'y viens. Mais donc ça, c'est la chose finalement la plus simple. Mais il y a l'appropriation. Souvent, on a pu parler pendant longtemps d'influence. Le mot influence était utilisé en esthétique pour essayer de repérer dans des œuvres ce qui venait du métissage, de l'hybridation. Voilà, on a pu voir des grands peintres français au 19e siècle être influencés par l'Orient. On a pu voir évidemment les cubistes être influencés par l'art africain. Et donc aujourd'hui, on relie l'étoile de Picasso à la lumière du primitivisme, par exemple. C'est bon. Mais je pense qu'il s'est passé autre chose dans le monde de l'art. Et aujourd'hui, on est dans un débat totalement surréaliste où on mélange tout, on confond tout. Quand Marcel Duchamp s'approprie un urinoir pour en faire une œuvre d'art et qu'il crée un ready-made, d'ailleurs, il y a bataille aujourd'hui pour savoir si c'est bien lui et non une jeune femme artiste qui est morte très jeune qui a créé cette œuvre. Est-ce que lui s'est approprié une œuvre qui n'était pas la sienne ? En tous les cas, il y a eu appropriation de cet objet, l'urinoir, pour en faire une œuvre d'art.
Oui, mais ça produit pas une culture, là.
Ah ben si, ça produit.
Il s'approprie un objet, mais pas une culture.
Ben oui, ça produit un artefact culturel, une œuvre qui vaut une fortune aujourd'hui, qui est une œuvre considérée comme extraordinairement importante dans l'histoire de l'art désormais. Mais après Duchamp, ce courant, il y a eu des courants artistiques. Il y a un courant qui s'appelle l'appropriationnisme, dont les artistes sont des gens qui vont se saisir comme des coucous, si vous voulez, qui vont se saisir des œuvres des autres pour, sans les transformer, les reprendre à leur compte et les signer à la place de ceux qui les ont faites.
C'est mais c'est d'accord, Sylvain Bourmeau. Mais pourquoi ça, avant juste de retrouver le Louis-Georges Tin qu'on a récupéré justement, mais pourquoi ça pose problème aujourd'hui alors que ça fait partie de l'histoire de l'art?
Ce que je viens de dire ne pose absolument pas problème, sauf
qu'aujourd'hui, il y a des problèmes.
Ça pose problème. Je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir. Michel Houellebecq a été accusé de plagiat, de vol, quand il s'est approprié des notices de Wikipédia dans ses romans, par exemple. Il a lui-même théorisé sur le mode de l'appropriation en disant ça appartient à tout le monde, à personne, moi je le copie et je le dis pas. Finalement, ça ressemble à ce que font les rappeurs avec du sample. On sait qu'il y a beaucoup de procès sur les appropriations musicales dans la musique aujourd'hui. Mais ce dont on parle, ce qui fait débat, c'est pas ça, c'est une autre acception du mot appropriation qui va falloir qu'on développe. Mais tout ça est quand même pas sans rapport.
Alors justement, on a retrouvé donc Louis Georgetin. J'espère qu'on va réussir à vous garder quand même pendant quelques minutes. Vous, qu'est-ce que vous mettez derrière la notion d'appropriation culturelle? Je ne sais pas si vous avez pu entendre ce qu'ont dit Anastasia Colosimo et Sylvain Bourmeau, mais est-ce que vous diriez que, en tout cas, aujourd'hui, le débat se porte sur ces notions-là, ou bien est-ce que vous y voyez d'autres formes, disons, de problématiques? Alors, Louis Georgetin, si vous m'entendez, moi, je ne vous entends toujours pas.
Moi, je vous entends.
Alors, allez-y, parce que j'attends votre réponse.
Allô, je vous écoute.
Je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière la notion d'appropriation culturelle, Louis Georgetin?
Il y a appropriation culturelle lorsque une personne s'approprie les éléments d'une autre culture. Mais il y a vraiment une distinction à faire. Car une personne qui est, par exemple, Rasta, on ne va pas dire tout de suite, c'est de l'appropriation culturelle. En revanche, si cette personne est déjà décidée à faire de l'appropriation culturelle, alors là, on peut déjà parler d'appropriation culturelle parce que il y a un bénéfice qui est très clair. Donc il faut manifestement mettre en date, mettre en lumière les intérêts financiers.
Ça veut dire que quand c'est une démarche uniquement individuelle, ça ne pose pas de problème, mais quand derrière on fait commerce, par exemple, je ne sais pas, prenons le cas d'un salon de coiffure qui proposerait uniquement des coupes rasta, puisque vous évoquez cet exemple. Et si le propriétaire du salon de coiffure n'est pas lui-même issu de la culture rasta, c'est à ce moment-là qu'il y a appropriation culturelle pour vous, Louis Georgetin?
Oui, je crois qu'il y a là une différence de nature qui convient d'être signifiée. Donc, si la personne récupère si la personne récupère en fait des événements qui sont économiques, là évidemment, il y a une difficulté.
Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, il faut interdire ce type d'appropriation, ou bien il y a la nécessité, par exemple, de verser une forme de rétribution, alors je ne sais pas de quelle manière d'ailleurs, mais pour avoir le droit justement d'utiliser ces éléments d'une autre culture?
Alors, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que les différences sont très subtiles. Mais je crois qu'il faut être réaliste et comprendre que la vie est personnelle, que la vie est pratiquement doit être mise en œuvre. Donc il faut voilà.
Je ne sais pas comment on répondrait à cette question. D'ailleurs, Anastasia Colosimo et Sylvain Bourmeau. Anastasia Colosimo, c'est-à-dire dans l'idée en tout cas que l'on puisse exploiter commercialement des éléments d'une culture qui ne sont pas la sienne. Est-ce qu'à partir du moment où justement il y a exploitation commerciale, c'est là qu'on peut comprendre que ça puisse poser un certain nombre de problèmes? En tout cas, ça fait partie du débat tel qu'il est posé aujourd'hui, en particulier en Amérique du Nord. Anastasia Colosimo.
Bah, on peut comprendre qu'il y ait un débat sur l'exploitation commerciale de quoi que ce soit, dans le sens où on exploiterait quelque chose, mais je vous avoue que moi j'ai vraiment du mal à comprendre le grief. J'ai vraiment du mal à comprendre, j'ai beaucoup de mal à comprendre aussi exactement ce qui est demandé, parce qu'il ne s'agit pas juste de... Il y a une demande, et d'ailleurs c'était très intéressant parce que vous avez demandé, mais alors comment on fait? On rétribue, mais on rétribue qui en fait? C'est-à-dire que par exemple, si on décide... Donc on va rétribuer tous les rastas, donc on va quoi? On va ouvrir un compte en banque pour tous les rastas du monde, pour les rétribuer si un jour Madonna veut se faire une coupe de rastas? En fait, je pense que c'est une vision erronée de la culture, au départ. C'est-à-dire que je pense que vraiment le ver est dans le fruit avec toutes ces histoires, qu'il y a une conception du fait que les cultures sont des phénomènes parfaitement séparés, ce qui est tout à fait faux, que l'appropriation est toujours consciente, ce qui est faux aussi, puisque je pense qu'on passe nos journées à faire des appropriations inconscientes. Et d'ailleurs, tant mieux. Et par ailleurs, je pense, et je le répète encore une fois, qu'il faut plutôt vouloir absolument s'approprier la culture de l'autre, de tous les autres, parce que c'est le mélange qui résout. En fait, encore une fois, quel est le but? Si le but, c'est la guerre de tous contre tous, alors on ne se mélange pas, chacun reste dans sa culture, et dès que quelqu'un fait un pas de côté dans la culture de l'autre, c'est un motif de guerre.
Parce que vous y voyez une forme de communautarisme?
Bah, évidemment. Mais c'est évidemment, enfin, c'est pas moi qui y vois. Bon, En revanche, si on décide de vivre ensemble...
Il n'y a pas que vous qui le voyez, mais qui le voyez.
Mais
je veux dire, il y a d'autres personnes qui considèrent qu'au contraire, il y a la nécessité justement de protéger des cultures qui sont issues de...
Mais alors, c'est pour ça que je vous dis, ça dépend du but. Parce que moi, je ne sais pas comment on fait pour vivre ensemble en étant différent si on ne se mélange pas. Or, ce que proposent ces gens-là, c'est de ne pas se mélanger, en fait. C'est de se mélanger le moins possible. Moi, je ne connais pas de société qui fonctionne et où le racisme, justement, est bas, où la xénophobie est bas, c'est qu'ils ne sont pas des sociétés du mélange, parce que c'est en se mélangeant à l'autre qu'on apprend à vivre avec l'autre.
Sylvain Bourmeau.
L'actualité de cette semaine nous a offert cette histoire absolument incroyable de ce jeune Américain qui s'est fait tuer par des flèches en débarquant sur une île des Andamans, l'île de Sentinelle, qui est une île complètement coupée du reste du monde, avec laquelle il n'y a aucun contact, y compris des îles les plus proches, et qui sont habitées par des peuples qui se sont éloignés depuis, semble-t-il, des centaines et des centaines d'années. C'est un cas peut-être encore unique sur cette planète. En tous les cas, je crois que pour comprendre l'enjeu de l'appropriation culturelle telle que ça peut survenir comme un objet de polémique sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant, je pense qu'il faut l'analyser comme un usage assez maladroit d'un concept académique qui peut être par ailleurs utile dans certains cas. Le problème est en gros...
Dans quel cas ça peut être utile, alors, par exemple ?
Eh bien... pour décrire une situation dans laquelle il y a une relation asymétrique, une relation politique ou une relation économique asymétrique entre deux individus ou deux groupes d'individus, et que l'un de ces individus ou de ces groupes d'individus profite de cette asymétrie pour parler à la place de l'autre. Parler à la place de l'autre en s'appropriant des codes, des langages, des cultures de l'autre. Bon. C'était le point de départ du grand livre de quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'ai eu la chance de connaître et de rencontrer, Edward Said. Edward Said, dans l'orientalisme, en 1978, a montré comment les représentations de l'Orient avaient été fabriquées en Occident, et quel problème ça posait que cette asymétrie culturelle. Simplement, il y a eu par la suite le développement d'un certain nombre d'études postcoloniales qui ont produit des travaux très très intéressants, mais il y a eu aussi des formes de dévoiement du travail d'Edward Said. D'ailleurs, lui-même s'en est ému, puisque quand il s'est agi de rééditer ce grand livre qu'est l'orientalisme, à plusieurs reprises, il a écrit des préfaces nouvelles dans lesquelles il s'est inquiété du fait que sa démarche avait été mal comprise, et que ceux qui pensaient que critiquer l'orientalisme voulait dire interdire la possibilité de se mettre par expérience intellectuelle dans la peau de l'autre, par exemple dans une fiction, ou de s'approprier des éléments de culture pour produire une culture hybride et métissée, cela n'avait rien compris à son travail et faisait peser sur nos sociétés aujourd'hui des risques de provincialisme extraordinairement puissants. Et d'ailleurs, il était, malheureusement, Saïd est mort peu de temps après le 11 septembre, mais il était en grand désaccord avec la thèse de Huntington, avec toute cette vision complètement agonistique du monde. Il était plus proche d'un Édouard Glissant, de cette théorie de l'hybridation, au fond. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il peut y avoir des formes de crispation et d'usage radicalisé, d'une certaine façon, de ce concept d'appropriation, qui, par ailleurs, peut être un concept intéressant, pour peu qu'on le manie avec précaution.
Alors Louis-Georges Jetin nous a enfin rejoint ici au Bel Air. Voilà, ça va être une discussion qui sera beaucoup plus simple que par téléphone dans le taxi. Est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous répondez en tout cas vous, Louis-Georges Jetin, à ceux qui diraient par exemple que justement l'appropriation culturelle, ça s'oppose à l'hybridation, qui est quelque chose qui constitue finalement l'histoire culturelle, et que ça favorise le communautarisme en renvoyant chacun dans sa propre histoire?
Je crois que le mot communautarisme ne veut pas dire grand-chose. Il y a pratiquement autant de définitions de ce mot qu'il y a de personnes. La vérité, c'est que il faut réfléchir en termes d'égalité. Mais aujourd'hui, en France, les gens disent « vous êtes communautariste ». En fait, c'est un peu la critique un peu trop facile qui est adressée un peu à tout le monde. Vous défendez la culture bretonne, vous êtes communautariste, vous défendez la culture, je ne sais pas de quelle région, vous êtes communautariste, vous défendez excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais vous défendez justement la lutte des peuples du Sud face au peuple du Nord, on vous traite de communautariste, alors qu'en fait, les gens qui utilisent ce propos sont précisément ceux qui sont dans une catégorie sociale tout à fait réduite.
Mais on a l'impression, Louis Georgetin, que ceux qui vont dénoncer, par exemple, une appropriation culturelle. Alors, prenons un exemple assez récent dans l'actualité, c'était les MTV Awards avec la chanteuse Madonna. C'est l'illustration qu'on a choisie pour le site internet de France Culture pour l'émission de ce soir. Elle se présente avec une tenue berbère. Et il y a eu énormément de réactions en disant, ben voilà, elle s'approprie une culture qui n'est pas la sienne. C'est un usage problématique et c'est aussi une critique qui est assez souvent relayé dans le monde de la mode avec certaines lignes de vêtements qui empruntent, par exemple, je sais pas moi, à la culture africaine où on va faire de l'argent avec ça. Est-ce que ça, c'est pas une façon de dire, bah, on ne touche pas à notre culture, nous seuls, par exemple, qui sommes africains, avons le droit d'exploiter commercialement cet élément de notre histoire culturelle.
Mais plus l'écart politique et économique est grand, et plus ça peut choquer. Si c'est un chanteur sans grande importance, et qui, en effet, ça utilise des chansons ou des styles berbères, bon, voilà. Mais quand c'est Madonna, qui est effectivement une personne extrêmement fortunée, il est normal que l'écart entre ceux qui ont cette culture et ceux qui n'en profitent pas soit extrêmement, extrêmement dépité. En fait, ça crée une frustration pour les gens qui disent « Madonna est déjà si riche, et nous sommes si pauvres, pourquoi a-t-elle besoin de faire cela ? »
Est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir justement cette frustration là, Anastasia Colosimo ?
Non, parce que je pense qu'elle est complètement idéologique et qu'ensuite, par l'idéologie, elle est passée au sentiment, comme malheureusement beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai du mal à croire que ça soit un vrai sentiment. Je peux parler de moi, par exemple. J'étais très fière que Dolce Gabbana fasse une collection de mode avec des fresques byzantines. Je trouvais ça magnifique.
Dolce Gabbana, vous savez qu'ils ont quelques soucis avec les Chinois hein, cette semaine. Hein,
oui,
pour
oui,
avoir fait des pubs où ils se moquaient un petit peu ils mettent en scène une Chinoise, je crois, qui essayait de manger des pizzas avec des baguettes. Ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux chinois.
Drôle.
Ils ont dû tout annuler. Hein,
oui, alors que c'était très drôle. Donc, comme quoi cette maladie vraiment atteint tous les pays du monde. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le vivre en termes de fierté. J'entends l'argument. J'entends très bien
fierté,
ce que vous dites.
Fierté, vous voulez dire, c'est-à-dire que d'autres personnes se réapproprient justement votre culture.
Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas plutôt fier de ça. Je comprends l'argument qui tient à dire que, alors, comme Madonna est dominante économiquement, elle ne peut pas non plus se rendre, s'approprier une culture qui est donc culturellement dominée, parce que dans ce cas-là, en tant que dominante, utilisant du dominé... Bref, je pense qu'on voit très bien d'où ça vient. Je pense que c'est une maladie qui a atteint l'université depuis longtemps, qui est partie aux États-Unis, qui aux États-Unis est devenue une sorte de cancer, et qui nous est revenue en plus comme un boomerang en France. Et oui, il se dit à peu près n'importe quoi, alors que, et je pense que c'est pas inutile de le dire, il y a des questions qui sont intéressantes, il y a des questions qu'il faut se poser, mais là, la manière dont les questions se posent sont toujours sous une forme d'hystérie, de censure obligée, avec en plus une forme de schizophrénie permanente, parce qu'en fait, ces mêmes minorités qui veulent être comprises et qui n'arrêtent pas de dire qu'elles veulent être reconnues, à chaque fois qu'on vient vers elles et qu'on essaye justement de se mélanger à elles, elles se rétractent automatiquement en disant que par ailleurs, on ne peut pas les comprendre et on ne peut pas être dans l'empathie avec eux parce qu'on ne comprend rien. Donc c'est extrêmement compliqué en fait. Par ailleurs, évidemment, ça correspond à une ultra-minorité parmi ces minorités et à une maladie plutôt universitaire, c'est-à-dire une surintellectualisation de ces phénomènes.
Sylvain Bourbeau.
C'est rien, c'est insignifiant, c'est peu de choses. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, dès qu'il se produit un événement de ce type, aux États-Unis. En France, les médias se jettent dessus pour le fabriquer comme une affaire, comme si c'était quelque chose de très grave. Les médias français s'approprient, pour le coup, des faits divers américains insignifiants, ou disons pas insignifiants, ce serait exagéré, mais pas très très fréquents, pour en faire une affaire d'État, de la même façon qu'on s'approprie en France le soi-disant communautarisme américain. Je note au passage qu'il n'y a même pas de traduction en anglais, le mot n'existe pas, on ne parle pas de communautarisme, ça n'existe tout simplement pas. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que, en revanche, il ne s'agit pas, et je ne vois pas comment on pourrait interdire les formes d'appropriation. L'appropriation, elle se fait toujours au risque du ridicule par celui qui s'approprie. Et la vraie critique, celle qui porte, c'est celle qui va être capable de ridiculiser celui qui s'approprie pour faire de l'argent, sans la moindre légitimité, sans la moindre réflexivité par rapport au geste qu'il a. Il y a eu des polémiques à propos de la façon dont les Rolling Stones se seraient appropriés la musique noire américaine. C'est ridicule quand on connaît
les Stones, Elvis Presley,
quand on connaît l'érudition d'un Mick Jagger pour cette musique noire américaine. Mais je crois qu'il faut être plus explicite que ça. Quand on est nourri par des influences et qu'on s'approprie des traditions culturelles qui sont extérieures, et je pense à ces jeunes adolescents britanniques qui écoutent ce qui se passe aux États-Unis, que ça fascine, etc., mais aussi en France, il faut aller plus loin et le dire. Mon cousin feu Nino Ferrer a écrit cette magnifique chanson « Je veux être noir », alors même, au moment même où il se laissait influencer considérablement par la même musique que celle qui influençait les Rolling Stones. Ce qui est très important, c'est de permettre ces hybridations. J'ai assisté cette semaine à un spectacle extraordinaire à Chaillot de Alain Platel et Fabrizio Cassol qui s'appelle Requiem pour elle. Ils ont pris le Requiem de Mozart. Vous savez, c'est une œuvre inachevée. Mozart est mort avant. Ils ont enlevé tout ce qui avait été rajouté par Süssmayr. Ils l'ont rempli par de la musique d'Afrique centrale, par de la musique jouée sur scène. Et vous avez une création totalement singulière, hybride, qui partage l'art du contrepoint, aussi bien pour la musique de Mozart que pour cette musique africaine, qui donne quelque chose d'absolument merveilleux. Il y a une double appropriation. Mozart devient africain, les Africains pygmées deviennent mozartiens, et ça produit une culture absolument unique. C'est ça, le processus de la culture.
Alors, il y a peut-être un spectacle auquel vous assisterez au mois de décembre, Sylvain Bourmeau. J'apprends au passage, d'ailleurs, que vous étiez le cousin de Nino Ferrer. Ça se passera à la Cartoucherie de Vincennes, le théâtre d'Ariane Mouchkine. C'est la pièce Kanata de Robert Lepage. C'est une pièce sur l'histoire des Amérindiens qui a été annulée au Canada cet été parce qu'il n'y avait pas d'acteurs qui faisaient partie de cette communauté des Amérindiens. Écoutez comment en parlait Radio-Canada justement cet été.
La polémique autour de Kanata a fait fuir des coproducteurs nord-américains et faute d'argent, Kanata n'aura pas lieu. Un scandale, selon Yves Jacques, un ami de Robert Lepage.
Je pense que la communauté noire et autochtone de Montréal ont tiré sur leur meilleur messager mondial.
Cette annulation survient moins de 3 semaines après une autre annulation, celle de Slav, un spectacle également signé par Robert Lepage et qui a semé la controverse.
Je suis profondément choqué de ces choses-là, parce que forcément, le théâtre, c'est devenir quelqu'un d'autre.
Par voie de communiqué, la compagnie Ex Machina écrit, et je cite, « Au-delà de cette troublante situation, il nous faudra bien, tôt ou tard, tenter de comprendre, calmement et ensemble, ce que sont fondamentalement l'appropriation culturelle et le droit à une expression artistique libre. » Cette décision survient une semaine après une rencontre à huis clos entre 35 membres de la communauté autochtone et les créateurs de Kanata, Robert Lepage et Ariane Mouchkine. Une participante à cette rencontre affirme que l'annulation du spectacle est une bonne décision.
Je pense que c'est une bonne nouvelle. Si on n'inclut pas les Premières Nations, est-ce qu'on parle de réelle réconciliation? Je ne crois pas, je ne crois pas.
Bon alors Louis-Georges Tin, cette pièce-là, elle va être jouée donc d'ici quelques jours en France, avec toujours des acteurs qui ne sont pas issus de cette communauté des Amérindiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous considérait qu'il était normal d'annuler cette pièce au Canada? Est-ce qu'il faudrait en faire autant pour la représentation française? Quel est votre avis là-dessus?
Mon sentiment est que la question de l'appropriation culturelle doit être pensée d'une manière globale, mais étudiée d'une manière locale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une règle, chaque cas est particulier. Comme j'ai dit, il y a des critères qui apportent un éclairage. Lorsque, en effet, il y a, comme je l'ai dit, un enrichissement personnel, et aussi lorsqu'il y a des personnes qui disent « j'appartiens à cette communauté culturelle et je suis choqué par ce qui est dit ». Donc je crois qu'il faut tenir compte de ce que disent les premiers concernés. Donc évidemment, je n'ai pas encore vu cette pièce, mais je constate qu'il faut tenir compte des premiers concernés. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément raison, mais c'est un élément à prendre en considération.
Tout à l'heure, Sylvain Bourmeau nous disait que c'est un débat qui est un débat qui existe en Amérique du Nord, sur lequel les médias français se précipitent, alors que ce n'est pas du tout un débat pour chez nous. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ça? Ou bien est-ce que vous considérez qu'il faudrait aussi importer finalement ce débat de l'appropriation culturelle en France, parce que finalement il y a, alors bien sûr peut-être sur d'autres thèmes, mais en tout cas les ressorts pourraient être les mêmes?
Il n'y a pas à importer, en fait. C'est pas une question d'importation, c'est une question de respect. Donc s'il y a des personnes qui disent j'appartiens à un certain groupe et je m'en sens extrêmement blessé par ce que fait un artiste ou un autre, je crois que c'est un élément important à prendre en considération.
Mais est-ce que vous voyez, vous, des cas aujourd'hui en France de groupes qui se diraient blessés par ces phénomènes d'appropriation culturelle, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas à vos yeux aujourd'hui ?
Ah si, ça existe, évidemment.
Donc, par exemple
Mais nous avons eu, par exemple, la question du bal noir, en fait. Donc ce bal noir...
Ça, c'était à Dunkerque, hein, c'est ça? C'est pendant le carnaval de Dunkerque?
Non,
c'est
autre chose.
Non, c'est autre chose encore. Alors, pardonnez-moi.
Donc, en fait,
parce que c'est le bal noir, alors.
Oui, il y a eu à Dunkerque une communication, une tradition assez vieille, je crois. Et les personnes qui sont à Dunkerque trouvent qu'il est sympathique, qu'il est traditionnel de faire des choses comme ça. Et donc, ça fait partie de l'appropriation culturelle.
Voilà, de se grimer en noir.
Voilà, hein. C'est ça.
Donc voilà, ça peut faire partie des questions. Anastasia Colosimo, vous vouliez réagir?
Non, je voulais réagir sur le fait que, en fait, on s'interdit l'empathie, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec cette pièce de Lepage, c'était de dire, bah, au contraire, nous, c'est une histoire qui nous a fait réagir, on est empathique et on aimerait en parler. Et en fait, c'est vraiment la fin de l'empathie, mais j'ai envie de dire, c'est en fait la fin de toute communication, et pour le coup, c'est le délitement parfait de l'humanité, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on ne traduit plus rien, on ne se parle pas, on n'échange pas, on ne voyage pas, et en fait, on s'enferme chacun dans son précaré. Je suis aussi toujours très... je trouve ça toujours très douteux de parler de la sensibilité en permanence. Alors évidemment, les gens ont des sensibilités, ces sensibilités sont très différentes, on peut très souvent être heurté par un tas de choses, et d'ailleurs pas que par des appropriations culturelles. J'ai un peu du mal avec cette tendance de l'époque de faire de ces sensibilités la mesure de toutes choses, et encore une fois, pas que sur ces questions-là, mais sur un tas d'autres questions. Il est évident aussi, par ailleurs, que ces sensibilités sont très construites, encore une fois, idéologiquement. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être agressé, et donc on se sent agressé, alors qu'il y a sans doute un tas de moments où il n'est pas du tout clair et avéré qu'il s'agisse d'une agression. Alors, tout le discours qui tient à dire « mais oui, mais les gens n'en sont pas conscients, etc. » est un discours, à mon avis, qui est un discours de guerre, en réalité.
Bon, eh bien, écoutez, merci, en tout cas, à tous les trois, d'avoir participé à cette discussion. Je ne suis pas sûr qu'on sera vraiment allé au bout de la question qu'on posait ce soir, de ce débat sur l'appropriation culturelle. Mais vous savez, il y a d'autres émissions. Rien ne nous empêche d'y revenir. Merci, en tout cas, Louis-Georges Thin, Sylvain Bourmeau et Anastasia Colosimo. Cette discussion, si vous avez envie de la réécouter, eh bien, vous pouvez le faire sur franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Il y a également les podcasts, et puis il y a également le petit onglet pour nous écrire. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Guillaume Laguigné, à la réalisation Alexandre Fougeron, à la prise de son compliquée ce soir, Julien Bourdet, Charles Bouticourt, Cédric Chatelu. Je dis compliqué parce que pour ceux qui auraient raté le début, bah oui, quand on essaie d'avoir quelqu'un qui est dans un taxi au téléphone, c'est pas toujours évident. J'espère que tous vos chroniqueurs sont là, Arnaud Laporte, pour la dispute.
Oui, sinon ils sont battus, vous savez.
Ah oui, c'est ça. Et moi, je suis trop gentil, donc voilà.